Chapitre 6. Le lecteur sait comment Lavretsky grandit et se développa. Disons quelques mots de l'éducation de Lise. Elle n'avait que 10 ans quand mourut son père. Il ne s'était guère occupé d'elle. Accablé d'affaires, tout entier aux soins d'augmenter ses revenus, d'un tempérament bilieux, vif, emporté, il ne ménageait pas l'argent pour payer les maîtres, les gouverneurs, pour habiller ses enfants, mais il ne pouvait souffrir, comme il le disait, d'avoir à amuser ses marmots. Et d'ailleurs, il n'en avait pas le temps. Il travaillait, s'absorbait dans ses affaires, dormait peu, jouait rarement aux cartes, et travaillait encore. Et il se comparait lui-même à un cheval attelé à un manège. « Ma vie a bien vite passé, » disait-il avec un amer sourire sur son lit de mort. Maria Dmitrievna ne s'en occupa point, en réalité davantage, quoiqu'elle se vantât auprès de Lavretsky d'avoir elle seule élevé ses enfants. Elle habillait sa fille comme une poupée. Elle la caressait devant le monde, l'appelait son petit trésor, son petit génie, et voilà tout. Toute préoccupation soutenue fatiguait cette indolente personne. Du vivant du père, Lise était confiée à une gouvernante, Mademoiselle Moreau, de Paris. Après sa mort, elle fut laissée aux soins de Marfa Timofievna. Le lecteur la connaît. Quant à Mademoiselle Moreau, c'était un petit être rabougri, avec des allures et une cervelle d'oiseau. Dans sa jeunesse, elle avait vécu d'une vie très dissipée, et sur ses vieux jours, il ne lui restait que 2 passions, la gourmandise et les cartes. Quand elle était rassasiée, qu'elle ne jouait pas et ne bavardait pas, sa figure présentait en quelque sorte l'image du néant. Elle respirait encore et ses yeux regardaient, mais il était aisé de voir qu'aucune idée ne traversait ce cerveau. On ne pouvait pas même l'appeler bonne, on ne saurait dire que les oiseaux sont bons. Était-ce l'effet d'une jeunesse orageuse ou bien de l'air de Paris qu'elle avait respiré de son enfance? Elle était imbue du scepticisme courant qui s'exprimait ordinairement chez elle par ses paroles. « Bon, tout ça, c'est des bêtises !» Elle parlait incorrectement le vrai jargon parisien, ne faisait point de commérage et n'avait point de caprice. Que pouvait-on désirer le mieux d'une gouvernante? Elle avait peu d'influence sur Lise, d'autant plus grande était l'influence de sa bonne Agafea Vassilievna. Le sort de cette femme était étrange. Elle était née d'une famille de cultivateurs. On l'avait mariée à 16 ans avec un paysan, mais elle se distinguait d'une manière tranchée de ses pareils. Son père, qui avait été staroste pendant 20 années et avait fait des économies, l'avait beaucoup gâtée. Elle avait été d'une beauté remarquable et d'une grande élégance, renommée dans les environs, pleine d'esprit, belle parleuse, sûre d'elle-même. Son maître, Dmitri Pestov, père de Maria Dmitrievna, la vit un jour occupée à vanner. Il causa avec elle et s'en éprit follement. Bientôt elle devint veuve. Pestov, quoiqu'il fût marié, n'était pas très scrupuleux. Il la prit chez lui et l'habilla comme les gens de la maison. Agafea se mit aussitôt à la hauteur de sa nouvelle position. On aurait dit qu'elle n'avait jamais vécu autrement. Sa peau blanchit, elle prit de l'embonpoint, ses mains devinrent éblouissantes sous ses manches de mousseline comme celles d'une bourgeoise. Le samovar ne quittait pas sa table. Elle ne voulut plus porter que le velours et la soie. Elle dormait sur des coussins de duvet. Cette vie de mollesse dura à peu près 5 ans. Dmitri Pestov mourut. Sa veuve, une femme excellente, par égard pour sa mémoire, eut pour elle de certains ménagements, et cela lui fut d'autant plus facile qu'Agafea ne s'était jamais oubliée envers elle. Néanmoins, elle la maria à un pâtre et la renvoya de la maison. 3 années se passèrent, Et pendant une journée brûlante d'été, la dame eut la fantaisie d'entrer dans sa ferme. La gaffea lui offrit une crème délicieusement fraîche. Son maintien était si humble, elle-même était si soignée dans sa personne, si sereine, si satisfaite de son sort, que sa maîtresse lui octroya son pardon et lui permit l'accès de sa maison. Et 6 mois après, elle s'était attachée si fort à elle qu'elle lui confia son ménage et en fit son économe. Agaféa rentra dans l'exercice de son pouvoir, reprit son embonpoint et blanchit de nouveau. La confiance de sa maîtresse n'eut pour ainsi dire plus de limites. Ainsi se passèrent 5 autres années. Le malheur s'apesantit encore une fois sur Agaféa. Son mari, qu'elle avait fait monter jusqu'à l'antichambre, se mit à boire, s'absenta de la maison seigneuriale et finit par soustraire des cuillères d'argent qu'il cacha jusqu'à bonne occasion dans le coffre de sa femme. Le vol fut découvert, on renvoya le mari à ses bêtes et la femme tomba en défaveur. D'économe, elle devint brodeuse et défense lui fut faite de porter le bonnet. Elle dut prendre le mouchoir. Agaféa supporta le coup qui la frappait avec une humble résignation qui étonna tout le monde. Elle avait alors plus de 30 ans. Ses enfants étaient tous morts et son mari ne vécut pas longtemps. L'heure était venue de faire un retour sur soi-même. Elle devint taciturne et très pieuse, se montra assidue aux matines et à la messe et fit une distribution de ses beaux vêtements. Elle passa 15 ans dans le silence, humble et sage, pleine de déférence envers tout le monde. Si quelqu'un lui parlait durement, elle s'inclinait et remerciait pour la leçon. Sa maîtresse lui avait pardonné depuis longtemps et lui avait rendu sa faveur en lui plaçant un jour son propre bonnet sur la tête. Mais Agaféa ne voulut point changer de coiffure et garda son humble toilette de couleur sombre. Après la mort de sa maîtresse, elle se fit encore plus humble et plus douce. Le russe obéit facilement et s'attache volontiers, mais il est difficile d'acquérir son estime. Elle ne se donne pas aisément et à la légère. Tout le monde estimait Agaféa dans la maison. Personne ne songeait aux erreurs du passé. Elles avaient été comme enterrées avec le vieux maître. En épousant Maria Dmitrievna, Kalitine avait voulu confier le ménage à Agaféa, mais celle-ci refusa à cause des séductions. Il éleva la voix, elle le salua humblement et sortit de la chambre. Kalitine, en homme d'esprit, comprenait les gens. Il comprit Agaféa et ne l'oublia pas. En se fixant à la ville, il la plaça, de son consentement, auprès de Lise, qui n'avait alors que 5 ans. L'air sérieux et le visage sévère de la nouvelle gouvernante intimidèrent d'abord la jeune fille. Mais celle-ci ne tarda pas à se familiariser avec elle et finit par la prendre en vive affection. C'était au surplus une enfant sérieuse. Ses traits avaient la vivacité de ceux de son père, mais elle n'avait rien de ses yeux. Son regard, au contraire, était plein de douceur et de tranquillité réfléchie, ce qui n'est pas commun chez les enfants. Elle n'aimait pas jouer avec les poupées, ne riait jamais bruyamment ni longtemps. Elle était active, ne s'abandonnait pas facilement à la rêverie, mais était naturellement silencieuse. Quand il lui arrivait de réfléchir, c'était sous l'impression d'une pensée sérieuse qui se manifestait par les questions qu'elle adressait alors aux personnes plus âgées qu'elle. Elle craignait son père. Le sentiment que lui inspirait sa mère n'avait rien de bien défini. Elle n'était vis-à-vis d'elle ni craintive ni caressante. Du reste, elle n'était caressante avec personne, pas même avec Agaféa, bien que ce fût la seule qu'elle aimât. Agaféa ne la quittait jamais, et c'était un curieux spectacle de les voir ensemble. Agaféa, droite et sévère, son tricot à la main, vêtue de noir, coiffée d'un fichu de couleur sombre, le visage amaigri et transparent comme de la cire, mais les traits toujours beaux et expressifs, et l'enfant à ses pieds, sur un tabouret, travaillant aussi ou bien les yeux fixés, écoutant d'un air sérieux les récits de sa gouvernante. Oh, ce n'était pas des contes que lui racontait Agaféa. Elle lui disait d'une voix grave et mesurée l'histoire de la Vierge, des serviteurs de Dieu et des saintes martyrs. Elle racontait la vie des saints dans le désert, comment ils se sanctifiaient en souffrant de la faim et de la misère, et comment, sans craindre même les empereurs, ils enseignaient la loi du Christ, comme quoi les oiseaux du ciel leur apportaient la nourriture et les bêtes féroces les écoutaient. Elle lui disait que le sol arrosé de leur sang se couvrait de fleurs, et la petite fille, qui aimait les fleurs, lui demandait alors si c'était la fleur de la passion. L'accent d'Agaféa était doux et sérieux, et elle partageait l'impression qu'elle produisait ses vieilles paroles. Lise l'écoutait, l'image du Dieu présent et tout-puissant se gravait profondément dans son âme et la remplissait d'une crainte douce et bénie. Le Christ était ainsi devenu pour elle un hôte bien connu, un être familier comme un parent. Agaféa lui avait appris à prier Dieu. Parfois, elle la réveillait le grand matin, l'enveloppait avec soin et la conduisait aux matines. Lise la suivait en marchant sur la pointe des pieds et retenant son haleine. Le froid et le demi-jour du matin, la fraîcheur et le vide de l'église, le secret dont s'enveloppaient ses furtives sorties, le mystérieux retour à la maison pour se remettre au lit, cet ensemble de circonstances où la désobéissance et l'imprévu se mêlaient à la piété, tout cela faisait impression sur la fillette et la remuait jusqu'au fond de son être. Agaféa ne la grondait jamais. Quand elle était mécontente, elle se taisait et Lise comprenait son silence. Elle s'apercevait même, avec la pénétration de l'enfance, quand Agaféa avait à se plaindre des autres, de Maria Dmitrievna, soi-même de Kalitine. Pendant 3 ans, Lise était restée confiée à ses soins. Ce fut Mademoiselle Moreau qui la remplaça, mais la frivole française, avec ses paroles sèches et son exclamation habituelle « Oh, tout ça, c'est des bêtises !» ne put chasser du cœur de Lise l'image aimée de la gouvernante. Le silence avait déjà des racines trop profondes. Agaféa, bien qu'il n'eût plus la garde de la jeune fille, était resté dans la maison où elle la voyait souvent et celle-ci lui témoignait toujours la même confiance. Agaféa, cependant, ne resta plus longtemps au logis dès que Marfa Timofeyevna vint l'habiter. La sévère importance de l'ancienne servante maîtresse ne pouvait s'accorder avec l'humeur impatiente et volontaire de la vieille dame. Elle s'éloigna sous prétexte de dévotion et le bruit courut qu'elle s'était retirée dans un couvent. Toutefois, les traces qu'elle avait laissées dans l'âme de Lise ne s'étaient pas effacées. Ainsi que par le passé, Lise allait au service divin comme à une fête. Elle y priait avec une sorte d'ivresse, avec une exaltation contenue et presque honteuse d'elle-même, ce dont Maria Dmitrievna n'était pas peu étonnée. Marfa Timofeyevna elle-même, qui ne pesait en rien sur Lise, essaya de modérer cette dévotion et voulut lui défendre de se prosterner aussi souvent, disant que ce sont là des gestes et non les prières d'une âme élevée. Lise apprenait bien et avec assiduité, mais Dieu ne l'avait pas douée de grandes facultés ni d'un brillant esprit. Elle ne pouvait rien acquérir sans peine. Elle jouait bien du piano, mais l'homme seul savait ce qu'il lui en avait coûté. Elle lisait peu, avait peu d'originalité dans l'expression, mais ses pensées lui appartenaient bien, et elle suivait la voie qu'elle s'était tracée. Et en cela, elle ressemblait à son père, qui, lui non plus, ne demandait pas aux autres ce qu'il avait à faire. Elle grandit ainsi paisiblement et atteignit sa 19e année. Elle était pleine de charme sans qu'elle s'en doutât. Chacun de ses mouvements trahissait une grâce ingénue et un peu gauche. Sa voix avait le timbre argentin et pur de la jeunesse. Le plus léger sentiment de plaisir appelait sur ses lèvres un aimable sourire et ajoutait un vif éclat et une secrète tendresse à ses doux regards. Attentive à n'offenser personne, d'un cœur bon et vertueux, elle aimait tout le monde, sans marquer de préférence pour personne. À Dieu seul, elle avait voué toutes les ardeurs de son âme, toutes ses affections, tout son amour. Lavretsky, le premier, était venu troubler le calme intérieur de cette existence. Telle était Lise. Le jour suivant, à midi, Lavretsky prit le chemin de la maison des Kalitine. Sur la route, il rencontra Panchine à cheval, qui le dépassa au grand galop en enfonçant son chapeau sur ses yeux. Lavretsky ne fut pas reçu chez les Kalitine. C'était la première fois depuis qu'il les connaissait. Maria Dmitrievna sommeillait, disait le domestique. Madame avait mal à la tête. Quant à Marfa Timofievna, elle était sortie avec la jeune fille. Lavretsky erra dans les alentours du jardin, dans le vague espoir de rencontrer Lise, mais il ne vit personne. 2 heures après, il retournait à la maison et recevait la même réponse que le domestique accompagnait d'un regard sournois. Il lui parut inconvenant de se présenter une 3e fois dans la même journée, et il se décida à aller à Vassilievskoye, où de toute façon ses occupations le réclamaient. Chemin faisant, il formait des plans plus beaux les uns que les autres. Mais arrivé au village, la tristesse s'empara de lui. Il se mit à causer avec Antoine. Le malheur voulut que le vieillard eût aussi ce jour-là les idées noires. Il lui conta comme quoi Glafira Petrovna, avant sa mort, s'était mordu la main. Et après un moment de silence, il ajouta en soupirant: tout homme, mon cher maître, est condamné à se dévorer lui-même. Il était déjà tard lorsque Lavretsky reprit le chemin de la ville. Les mélodies de la nuit lui revinrent à la mémoire. L'image de Lise se dressa devant lui dans toute sa grâce naïve. La pensée qu'il était aimé le remplissait d'émotion. Et il arriva enfin à sa petite maison, l'esprit plus calme et heureux. La première chose qui le frappa en entrant dans l'antichambre fut une odeur de patchouli qu'il détestait. Sur le plancher gisaient des caisses de voyage, des malles. La figure de son valet de chambre qui s'était précipité à sa rencontre lui parut singulière. Sans se rendre compte de ses impressions, il passa le seuil du salon. Du divan où elle était étendue, une femme en robe noire à volant se souleva languissamment pour venir à sa rencontre. Sur son pâle visage, elle tenait un mouchoir également brodé. Elle fit quelques pas en avant, et inclinant avec grâce sa jolie tête, elle se laissa tomber à ses pieds. C'est alors seulement qu'il la reconnut. C'était sa femme. Or, sa respiration s'arrêta, et il n'eut que le temps de s'appuyer contre le mur. Théodore, ne me repoussez pas, dit-elle en français. Et sa voix, comme la lame froide d'un poignard, pénétrait dans son cœur. Il la regardait sans comprendre, et pourtant il remarqua aussitôt qu'elle avait le teint plus blanc et les joues plus pleines que jamais. Théodore, continuait-elle en relevant de temps en temps les yeux et en feignant de tordre ses doigts effilés aux ongles roses et polis. Théodore, je suis coupable. Je dirai plus, je suis criminel. Écoutez-moi, le remords me poursuit. Je suis à charge à moi-même. Je ne puis supporter plus longtemps ma position. Combien de fois j'ai pensé à m'adresser à vous, mais je craignais votre colère. Je me suis décidé à rompre avec le passé, puis j'ai été si malade, ajouta-t-elle en passant sa main sur son front et ses joues. J'ai profité du bruit qu'on avait fait courir de ma mort et j'ai tout quitté. Je ne me suis arrêté ni jour ni nuit, j'avais hâte d'être ici. Longtemps j'ai hésité avant d'oser paraître à vos yeux. Je m'y suis résolu enfin en me rappelant votre intarissable bonté. J'ai su votre adresse à Moscou et je suis venu. Croyez-moi, continua-t-elle en se relevant doucement et s'asseyant sur le bord d'un fauteuil, j'ai souvent songé à la mort et j'aurais eu assez de courage pour me la donner si la pensée de ma fille, de mon Ada, ne m'avait arrêté. Elle est ici, elle dort dans la chambre voisine. Pauvre enfant, elle est fatiguée, vous la verrez. Elle, au moins, elle est innocente à vos yeux. Et moi, je suis si malheureuse, si malheureuse, s'écria-t-elle en fondant en larmes. Lavretsky revint enfin à lui. Il se détacha lentement de la muraille contre laquelle il était appuyé et se tourna vers la porte. « Vous vous éloignez ? » s'écria sa femme avec désespoir. « Vous vous éloignez sans me dire un mot, sans me faire un reproche ? Oh, ce mépris m'accable, c'est affreux !» Lavretsky s'arrêta. « Que me voulez-vous » dit-il d'une voix éteinte. « Rien, rien !» s'écria-t-elle avec vivacité. « Je sais, je n'ai le droit de rien exiger, je ne suis pas une insensée, je n'espère rien. Je n'ose compter sur votre pardon. J'ose seulement vous supplier de me dire ce que je dois faire. Où dois-je vivre ? Comme une esclave, je remplirai vos ordres, quels qu'ils soient. » « Je n'ai pas d'ordre à vous donner, » répondit Lavretsky avec le même accent. « Vous le savez, tout est fini entre nous, et maintenant plus que jamais. Vous pouvez vivre où vous voudrez, et si vous avez trop peu de pension. » « Oh, ne prononcez pas des paroles aussi cruelles, » interrompit-elle. « Ayez pitié de moi, du moins en faveur de cet ange. » Et en disant cela, elle s'élança dans l'autre chambre et revint tendant dans ses bras une petite fille très artistement attifée. De belles boucles blondes tombaient sur sa jolie figure rose et sur ses grands yeux encore tout endormis. Elle souriait et fermait à demi ses paupières en regardant la lumière et appuyant sa petite main au cou de sa mère. Ada, vois, c'est ton père, dit Madame Lavretsky en écartant les boucles qui couvraient les yeux de l'enfant et en l'embrassant avec force. Prie-le avec moi. C'est là, papa ? Marmotta la petite en grasseyant. Oui, mon enfant, n'est-ce pas que tu l'aimes ? Lavretsky ne put y tenir. Mais dans quel mélodrame, dit-il, y a-t-il une scène semblable ? Il sortit de la chambre. Madame Lavretsky resta quelque temps immobile, puis, haussant légèrement les épaules, elle saisit la petite, la porta dans une autre chambre, la déshabilla et la mit au lit. Puis elle s'assit près de la lampe, prit un livre, attendit environ une heure et se coucha. Eh bien, madame, lui demanda en la délassant sa femme de chambre, soubrette parisienne. Eh bien, Justine, répondit-elle, il a bien vieilli, mais il semble être toujours aussi bon que par le passé. Donnez-moi mes gants pour la nuit. Préparez pour demain ma robe montante, la grise. Et surtout, n'oubliez pas les côtelettes de mouton pour Ada. Il sera peut-être difficile d'en trouver ici. Mais enfin, il faut tâcher qu'on s'en procure. À la guerre comme à la guerre, répondit Justine. Et elle éteignit la bougie. Pendant plus de 2 heures, Lavretsky erra dans les rues de la petite ville d'O. Il se souvint de la nuit où il avait erré naguère dans les environs de Paris. Son cœur se serrait, et dans son cerveau malade se heurtaient 1000 idées sinistres et mauvaises. « Elle vit, elle est ici !» murmurait-il avec un accent d'étonnement toujours croissant. Il sentait qu'il perdait Lys pour toujours. La rage le suffoquait. Le coup qui le frappait était trop soudain. Comment avait-il pu si légèrement ajouter foi au commérage d'un feuilleton, un chiffon de papier ? Mais enfin, pensait-il, si je n'y avais pas cru, quelle serait maintenant la différence ? Je ne saurais pas que Lys même. Elle ne s'en douterait pas non plus. Il ne pouvait chasser de sa pensée la physionomie, la voix, le regard de sa femme, et il se maudissait lui-même et l'univers entier. En proie à une horrible torture, il vint au milieu de la nuit chez Lem. Longtemps, il ne put se faire entendre. Enfin, à la fenêtre parut la tête du vieillard en bonnet de nuit. Son visage, ridé et maussade, n'avait plus rien de cette figure d'artiste, toute rayonnante d'inspiration et d'enthousiasme, qui, 24 heures auparavant, tenait Lavretsky sous l'empire de son regard souverain. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Je ne puis pas jouer toutes les nuits. Je viens de prendre de la tisane. » Pourtant, les traits de Lavretsky devaient avoir une expression bien étrange, car le vieillard, posant la main au-dessus de ses yeux, et après avoir jeté sur lui un regard attentif, le fit entrer aussitôt. Une fois dans la chambre, Lavretsky s'affaissa sur une chaise. Le vieillard se posa devant lui, rapprocha les pans de sa vieille robe de chambre bigarrée et se recoquilla en mâchonnant ses lèvres. « Ma femme est arrivée !» dit Lavretsky en relevant la tête. Et soudain, il partit d'un éclat de rire. La stupéfaction se peignit sur le visage de Lem, mais il ne sourit pas. Il se contenta de serrer plus étroitement sur lui les plis de sa robe de chambre. Mais vous ne vous doutez pas, continua Lavretsky, que je m'étais figuré, que j'avais lu dans les journaux, que n'était plus de ce monde. Ah, vous avez lu cela il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas ? Lui demanda Lem. Non, il n'y a pas longtemps. Oh, fit encore le vieillard en relevant les sourcils. Elle vient d'arriver ? Oui, elle est chez moi. Et moi, je suis bien malheureux, s'écria-t-il. Et il se mit de nouveau à rire. Oui, vous êtes malheureux, répéta lentement Lem. Monsieur Lem, reprit Lavretsky, vous chargeriez-vous de remettre un billet ? Peut-on savoir à qui ? À Lisa. Ah oui, je comprends. Bien, oui. Et quand faudra-t-il le lui remettre ?
Demain, aussitôt que possible.
On pourrait envoyer Catherine, ma cuisinière. Mais non, j'irai moi-même.
Et vous m'apporterez la réponse ?
J'apporterai la réponse. Et le vieillard soupira. Oui, mon pauvre jeune ami, reprit-il, vous dites vrai. Vous êtes bien malheureux. Lavretsky écrivit quelques mots à Lise. Il lui annonçait l'arrivée de sa femme, lui demandait une entrevue. Puis il se jeta sur le petit canapé, le visage contre le mur. Quant au vieillard, il se recoucha. Il se tournait sans cesse dans son lit, toussant et avalant quelques gorgées de tisane. Lorsqu'il fit grand jour, ils se regardèrent tous deux d'un air singulier. Lavretsky, en ce moment, aurait voulu se tuer. Catherine rapporta du café détestable. 8 heures sonnèrent à la pendule. Lem prit son chapeau et sortit, en disant qu'il ne donnait habituellement sa leçon chez les Calétines qu'à 10 heures du matin, mais qu'il trouverait un prétexte plausible. Lavretsky se rejeta sur le petit sofa, et de rechef un rire amer sortit de sa poitrine. Il pensait à sa femme qu'il avait chassée de sa maison. Il se représentait la position de Lise et fermait les yeux en jetant par un geste désespéré ses bras au-dessus de sa tête. Enfin, Lem revint, rapportant un chiffon de papier sur lequel Lise avait tracé au crayon ce peu de mots. Nous ne pouvons nous voir aujourd'hui, peut-être demain soir, adieu. Lavretsky remercia Lem d'un ton bref et distrait et retourna chez lui. Il trouva sa femme déjeunant. Adda, les cheveux bouclés, en petite robe blanche avec des nœuds bleus, mangeait sa côtelette de mouton. Varvara Pavlovna se leva aussitôt et s'approcha de lui d'un air soumis. Il la pria de le suivre dans son cabinet, ferma la porte et commença à marcher d'un pas agité. Quant à elle, elle s'assit, croisa modestement ses mains l'une sur l'autre et le suivit du regard. Elle avait encore les yeux fort beaux, bien que les paupières fussent peintes. Longtemps, Lavretsky ne put proférer une parole. Il sentait qu'il n'était pas maître de lui-même. Il voyait bien que sa femme ne le craignait nullement, mais qu'elle se préparait à jouer un évanouissement. « Écoutez-moi, madame, » dit-il d'une voix étranglée et en serrant convulsivement les dents. « Nous n'avons plus à feindre l'un devant l'autre. Je ne crois pas à votre repentir, et même s'il était sincère, revenir à vous et vivre avec vous me serait impossible. » Varvara Pavlovna se mordit les lèvres et plissa sa paupière.
C'est de la répugnance, se dit-elle, c'en est fait. Pour lui, je ne suis même plus une femme.
Non, c'est impossible, reprit Lavretsky en croisant son paletot. Je ne sais pourquoi vous m'avez fait l'honneur de venir ici. Probablement, vous n'avez plus d'argent.
Hélas, vous m'offensez, murmura-t-elle.
En fin de compte, madame, pour mon malheur, vous êtes toujours ma femme. Je ne puis donc pas vous chasser de chez moi. Voici ce que je viens vous proposer. Vous pouvez aujourd'hui même, si cela vous plaît, aller demeurer à Lavriki. Vous le savez, la maison est jolie, vous y aurez tout ce qui vous sera nécessaire en sus de votre pension. Consentez-vous ?
Varvara Pavlovna porta à ses yeux son mouchoir brodé.
Mais je vous ai déjà dit, dit-elle la lèvre tremblante, que je consens à tout ce qu'il vous conviendra de m'imposer. Mais pour cette fois, vous me permettez du moins de vous remercier pour votre extrême générosité.
Trêve de remerciements, je vous en supplie, dit-il avec impatience. Ainsi, dit Lavretsky en se rapprochant de la porte, je puis compter.
Dès demain, je serai à Lavriki, répondit Varvara Pavlovna en se levant respectueusement de son fauteuil.
Mais, Fiodor Ivanovitch, elle ne disait plus Théodore,
que voulez-vous ? Je sais que je n'ai point encore mérité mon pardon. Puis-je du moins espérer qu'avec le temps...
Eh, mon Dieu, Varvara Pavlovna, interrompit-il, vous êtes une femme d'esprit. Mais moi non plus, je ne suis pas un imbécile. Je le sais, mon pardon vous est parfaitement indifférent. Je vous ai pardonné depuis longtemps, mais il y a entre nous un abîme.
Je saurais me soumettre, répliqua-t-elle en baissant la tête. Je n'ai point oublié ma faute. Je n'aurais même pas été surprise que la nouvelle de ma mort vous eût fait plaisir, dit-elle avec douceur, en montrant de la main le numéro du journal que Lavretsky avait oublié sur la table.
Lavretsky tressaillit, le feuilleton était marqué au crayon. Varvara Pavlovna le regarda d'un air encore plus humble. Elle était très belle en ce moment. Sa robe grise dessinait admirablement sa taille flexible, une taille de jeune fille. Son cou mince et délicat, encadré dans un petit col blanc bien blanc, sa poitrine soulevée par une respiration régulière, aisée, ses bras sans bracelet, ses mains sans bagues, toute sa personne enfin, depuis les cheveux ondés jusqu'au bout de la bottine qu'elle laissait voir, tout en elle trahissait un art exquis. Lavretsky l'enveloppa d'un regard de haine. Il eut grand-peine à se retenir de crier « Brava !» à cette comédienne. Il se sentait capable de l'assommer sur place. Il sortit. Une heure après, il courait sur la route de Vassilievskoye, et 2 heures ne s'étaient pas écoulées que Varvara Pavlovna s'est en fait amené le meilleur équipage de l'endroit, mit un simple chapeau de paille à voilette noire, un mantelet bien simple, confia Anna aux soins de Justine et se fit conduire à la maison des Kalitine. En questionnant les gens de la maison, elle apprit que son mari y allait tous les jours. Le jour de l'arrivée de Madame Lavretsky dans la ville d'O fut un triste jour pour son mari et un jour bien pénible pour Lise. Avant qu'elle eût encore salué sa mère, elle entendit le galop d'un cheval et vit avec un secret effroi Panchine qui entrait dans la cour.
« Oh, il vient de si bonne heure, pensa-t-elle, pour avoir une explication définitive. » Et elle ne se trompait point. Après être resté quelques instants dans le salon, il lui fit la proposition de venir avec lui dans le jardin,
Et là, il demanda une réponse explicite. Lise prit son grand courage et lui déclara qu'elle ne pouvait pas l'épouser. Il l'écouta jusqu'au bout, en l'examinant à la dérobée, et enfonçant son chapeau sur les yeux, il lui demanda poliment, mais en changeant de ton, si c'était une décision irrévocable, et si lui-même n'avait pas fourni involontairement l'occasion d'un pareil changement dans ses idées. Puis, portant à sa main à ses yeux, il poussa un profond soupir et retira sa main. « Je n'ai point voulu suivre le chemin battu, » dit-il d'une voix sourde. « J'ai voulu trouver une compagne suivant le penchant de mon cœur, mais il semble que cela soit impossible. Adieu mes rêves. » Il salua jusqu'à terre et rentra dans la maison. Lise comptait le voir partir sur le champ, mais il alla chez Maria Dmitrievna et resta près d'une heure chez elle. En sortant, il dit à Lise « Votre mère vous appelle, adieu à jamais !» Il s'élança sur son cheval et partit ventre à terre. Lise trouva sa mère en larmes. Panchine lui avait appris son malheur. « Mais tu veux donc me faire mourir ?» dit la pauvre veuve pour commencer ses doléances. « Mais à quoi songes-tu donc ? Pourquoi le refuser ? N'est-il pas un excellent parti pour toi ? Il est gentilhomme de la chambre, il n'est point intéressé. À Pétersbourg, il pourrait épouser une demoiselle d'honneur. Oh, et moi, qui espérais de toute mon âme ? Mais dis-moi donc, depuis quand es-tu changé à son égard ? Ce sinistre nuage n'a point éclaté de lui-même. Quel vent l'a poussé ? Serait-ce par hasard ce Nigaud ? Un joli conseiller que tu as trouvé là. Et lui, l'excellent jeune homme, comme il est respectueux dans sa douleur et plein de délicatesse. Il a promis de ne pas m'abandonner. Ah, je le sens, je ne pourrais le supporter. Je commence à avoir horriblement mal à la tête. Envoie-moi ma femme de chambre. Tu me tueras si tu ne reviens pas à d'autres sentiments, entends-tu ? Après lui avoir dit deux ou trois fois qu'elle était une ingrate, elle la congédia. Lise regagna sa chambre, mais elle n'avait pas encore eu le temps de se remettre de son explication avec Panchine et avec sa mère, lorsqu'un nouvel orage éclata sur sa tête, et il venait du côté où elle l'attendait le moins. Marfa Timoïevna entra dans la chambre et rejeta la porte derrière elle. La figure de la vieille dame était pâle, son bonnet de travers. Ses yeux brillaient, ses mains et ses lèvres tremblaient. Lise resta atterrée. Jamais elle n'avait vu sa tante, cette femme si spirituelle et si raisonnable, dans un semblable état. « Très bien, mademoiselle, » dit-elle d'une voix entrecoupée et tremblante. « Très bien, mademoiselle, où as-tu appris cela ? Oh, donne-moi donc de l'eau, je ne puis plus parler. »« Calmez-vous, ma tante. Qu'avez-vous ? » lui dit Lise en lui présentant un verre d'eau. « Mais vous-même, vous n'aimiez pas, monsieur Panchine. » Marfa Timofievna posa le verre. « Je ne puis boire, » dit-elle, « je briserai mes dernières dents. »« Il est bien question de Panchine. Pourquoi parler de Panchine ? Dis-moi plutôt qui t'a appris à donner la nuit des rendez-vous, hein ?» Lise pâlit. « Oh, ne sais pas de nier. La petite Chulapska a tout vu, m'a tout raconté. Je lui ai défendu de bavarder, mais elle ment pas. »
Je ne m'en défends pas, ma tante, répondit Lise d'une voix à peine intelligible.
Oh, c'est donc ainsi? Tu lui as donné rendez-vous à ce vicieux pécheur, à ce vieil hypocrite?
Non, comment non?
Je suis descendu dans le salon pour prendre un livre. Il était au jardin, il m'a appelé.
Mais tu y es allé. Mais c'est admirable, mais tu l'aimes donc?
Oui, répondit Lise d'une voix éteinte.
Mon Dieu, elle l'aime.
Marfa Timofievna arracha son bonnet.
Elle l'aime. Un homme marié. Oh, elle l'aime.
Il m'avait dit, commença Lise. Que t'a-t-il dit, ce bon monsieur?
Mais il m'a dit que sa femme était morte.
Maria Timofievna se signa.
Que Dieu veuille avoir son âme, murmura-t-elle. C'était une petite femme bien nulle.
Mais n'en disons pas de mal, ainsi les veufs. Allons, je le vois, il est capable de tout. Il a fait mourir une femme, et il lui en faut déjà une autre, avec ses airs de sainte Nitouche. Sais-tu bien, ma chère, qu'au temps où j'étais jeune, une pareille conduite se payait cher? Oh, ne te fâche pas contre moi, mon enfant. Il n'y a que les imbéciles qui se fâchent contre la vérité.
Je lui ai fait refuser ma porte aujourd'hui. Je l'aime et jamais je lui pardonnerai ce qu'il a fait.
Tiens, tiens, il est veuf. Donne-moi donc de l'eau.
Et quant à avoir envoyé Panchil avec un pied de nez, je t'en estime davantage. Mais seulement, je t'en prie, ne reste pas à causer la nuit avec cette race de bouc. Ne cherche pas à me désarmer, tu n'y réussiras pas. Car je ne sais pas seulement caresser, je sais aussi mordre.
Ah, tiens, il est veuf.
Marfa Timofievna sortit. Élise s'assit dans un coin et se mit à pleurer. Son âme se gonflait d'amertume. Elle ne méritait pas une si grande humiliation. Pour elle, l'amour ne s'annonçait pas sous de joyeux auspices. Depuis la soirée de la veille, elle pleurait pour la seconde fois. Ce sentiment nouveau avait payé le temps de t'éclore dans son cœur, et déjà elle l'avait chèrement payé. Un regard étranger avait sans ménagement pénétré le mystère de sa vie intime. Elle avait honte, elle souffrait amèrement, mais elle n'avait ni doute ni crainte, et Lavretsky ne lui en était que plus cher. Naguère, elle était pleine d'hésitation au milieu des idées diverses dont elle était assaillie, et elle ne se comprenait pas elle-même. Mais après cette entrevue de la nuit, après ce baiser, elle ne pouvait plus douter, elle sentait qu'elle l'aimait, et elle se mit à aimer d'un cœur droit et sérieux. Elle se donna pour toute sa vie et de toute son âme. Elle ne craignait plus les menaces. Elle sentait qu'aucune violence ne saurait briser les liens qu'elle avait formés. Maria Dmitrievna fut bien troublée quand on vint lui annoncer la visite de Madame Lavretsky. Elle ne savait même pas si elle devait la recevoir. Elle craignait d'offenser Fiodor Ivanovitch. Enfin, la curiosité prit le dessus. Au bout du compte, pensa-t-elle, elle est ma parente. Et, s'enfonçant dans son grand fauteuil, elle dit au domestique de faire entrer. Quelques minutes après, la porte s'ouvrait. Varvara Pavlovna s'approcha d'elle d'un pas rapide et léger, et sans lui donner le temps de se lever de son fauteuil, elle s'inclina presque jusqu'à ses pieds. « Merci, merci, ma tante, » dit-elle en russe, d'une voix douce et émue.
Merci. Je ne comptais pas sur tant d'indulgence. Vous êtes bonne comme un ange. » En prononçant ces paroles, Varvara Pavlovna saisit soudain la main de Maria Dmitrievna, et en la serrant légèrement entre ses gants, jouvin, couleur gris-perle, elle la porta à ses lèvres vermeilles. Maria Dmitrievna perdit complètement la tête en voyant à ses pieds une femme aussi belle et aussi bien mise. Elle ne savait plus ce qu'elle avait à faire. Elle aurait voulu retirer sa main, elle aurait voulu la faire asseoir, elle aurait voulu lui dire enfin quelque chose de bienveillant, et finit par se soulever et la baiser sur son front lisse et parfumé. Madame Lavretsky s'épanouit sous ce baiser. « Bonjour, bonjour, » dit Maria Dmitrievna. « Certainement, je ne m'attendais pas, je ne croyais pas. Moi, je suis contente de vous voir, vous comprenez. Je ne puis être juge entre mari et femme. » Mais mon mari a raison en tout, interrompit Varvara. Seule, je suis coupable. Ce sont là des sentiments bien louables, ma chère nièce, dit Maria Dmitrievna. Très louables. Êtes-vous arrivée depuis longtemps? L'avez-vous vue? Mais asseyez-vous donc, je vous prie. Je suis arrivée seulement depuis hier, répondit Varvara Pavlovna en s'asseyant humblement sur le bord de la chaise. J'ai vu mon mari, je lui ai parlé. Ah, vous lui avez parlé? Et qu'a-t-il dit? Je craignais que mon arrivée si imprévue n'éveillât sa colère, mais il ne m'a pas repoussé. Enfin, c'est-à-dire, il n'a pas... Je comprends, dit tout bas Maria Dmitrievna. Il est un peu bourru, mais son cœur est bon. « Fiodor Ivanovitch ne m'a point pardonné. Il n'a pas voulu m'entendre. Mais il a été assez bon pour me fixer Lavriki comme habitation. Ah oui, vraiment, c'est un beau domaine. Dès demain, je vais m'y établir pour me conformer à sa volonté. Mais j'ai cru de mon devoir avant tout de me présenter chez vous. » « Je vous en suis très reconnaissante, ma chère. » Il faut jamais oublier ses parents. Je m'étonne, savez-vous, que vous parliez encore si bien le russe, c'est étonnant. Varvara Pavlovna poussa un soupir. Oh, je suis resté trop longtemps à l'étranger, je le sais, mais mon cœur, croyez-le bien, est resté toujours russe et je n'ai pas oublié ma patrie. C'est bien, très bien, cela vaut mieux que toute chose. Et puis croyez à ma vieille expérience. La patrie avant tout. Oh, quelle jolie mantille vous avez là. Montrez-la-moi de grâce. Elle vous plaît? Et Varvara Pavlovna l'ôta précipitamment de ses épaules. Oh, elle est très simple, de chez Madame Baudran. Oh, on le voit tout de suite, de chez Madame Baudran. Comme elle est jolie et quel goût. Oh, je suis sûr que vous avez apporté avec vous une foule de choses ravissantes, comme je voudrais les voir. Mais toute ma toilette est à votre service, chère tante. Si vous voulez, je puis montrer différentes choses nouvelles à votre femme de chambre. La mienne est de Paris, excellente ouvrière. Oh, vous êtes trop bonne, ma chère, mais vraiment, j'ai conscience. Conscience? Répéta d'un ton de reproche Varvara Pavlovna. Voulez-vous me rendre heureuse? Disposez de moi comme il vous plaira. Maria Dmitrievna s'épanouit. Vous êtes charmante, lui dit-elle. Mais pourquoi donc n'êtes-vous pas vos gants et votre chapeau? Quoi, vous permettriez? Dit-elle en joignant les mains. « Mais certainement, vous dînez avec nous, j'espère. Je vous ferai faire connaissance avec ma fille. » Maria Dmitrievna dit cela en se troublant un peu. Puis elle en prit son parti et elle ajouta, «
Ma fille n'est pas très bien aujourd'hui, vous l'excuserez.
Oh, ma tante, comme vous êtes bonne, s'écria Varvara Pavlovna en portant son mouchoir à ses yeux.
Le petit cosaque annonça M. Gédéonovski. Le vieux bavard entra en souriant et en faisant de grands saluts à droite et à gauche.
Maria Dmitrievna le présenta à Madame Lavreski. Il fut d'abord très embarrassé. Mais Varvara Pavlovna prit avec lui des airs de coquetterie respectueuse qui lui firent monter le rouge jusqu'aux oreilles, et des sortes les commérages et les amabilités coulèrent de source. Varvara Pavlovna l'écoutait en retenant un sourire, et petit à petit, elle prit part à la conversation. Elle parla modestement de Paris, de ses voyages de Baden, fit rire deux ou trois fois Maria Dmitrievna, et chaque fois se reprit en soupirant, comme si elle se reprochait d'une intempestive gaieté. Elle demanda la permission d'amener Anna, et ayant ôté de ses gants, elle montrait de ses doigts effilés, où l'on portait maintenant les volants sur les robes, les ruches, les choux, etc. Elle promit d'apporter un flacon de parfum nouveau, Essence Victoria, et se réjouit comme une enfant quand Maria Dmitrievna consentit à accepter ce petit présent. Elle versa quelques larmes en racontant le sentiment délicieux avec lequel elle avait entendu le son des cloches russes. Il l'avait remué jusqu'au fond du cœur. En ce moment, Lise entra. Depuis le matin, depuis l'instant où toute glace et l'effroi, elle avait lu la lettre de Lavretsky, Lise se préparait à cette entrevue. Elle pressentait qu'elle devait la voir. Elle résolut de ne pas l'éviter, afin de châtier ses espérances criminelles, comme elle les nommait. Elle sentait que sa vie était brisée, et en moins de 2 heures, ses traits s'étaient amaigris, mais elle n'avait pas versé une larme. « Je l'ai mérité, » pensait-elle, en refoulant avec effort des sentiments amers et méchants qui l'effrayaient elle-même. « Il faut que j'y aille, » se dit-elle dès qu'elle apprit l'arrivée de Madame Lavretsky. Elle resta longtemps devant la porte du salon avant de se décider à l'ouvrir. Enfin, elle franchit le seuil en se disant « Je suis coupable devant cette femme. » Elle s'efforça de la regarder en face et de lui sourire. Varvara Pavlovna ne l'eut pas plutôt aperçue qu'elle se porta à sa rencontre et s'inclina légèrement devant elle d'un air poli, mais avec une sorte de respect. Oh, « Permettez-moi de me recommander à vous, » dit-elle d'une voix insinuante. « Votre maman m'a traité avec tant d'indulgence que j'espère que vous aussi, vous serez bonne pour moi. » L'expression du visage de Varvara Pavlovna en prononçant ces paroles, son sourire faux, son regard froid et doucereux, les mouvements de ses mains et de ses épaules, sa robe même et tout son être, éveillaient chez Lise un tel sentiment de répulsion qu'elle ne put rien répondre, et dut rassembler toutes ses forces pour lui tendre la main. « Oh, cette belle demoiselle me méprise !» se dit Madame Lavretsky, en serrant avec force les doigts glacés de Lise. Et se tournant vers Maria Dmitrievna, elle lui dit à mi-voix, « Oh, elle est vraiment délicieuse !» Lise rougit légèrement. Elle sentait l'ironie et l'insolence dans la louange, mais elle était décidée à résister à ses impressions. Elle s'approcha de la fenêtre et se mit à son métier à tapisserie. Varvara Pavlovna était résolue à ne pas lui laisser de trêve. Elle s'approcha d'elle, faisant l'éloge de son goût et de son habileté. Le cœur de Lise battait fort et douloureusement.
Elle put à peine se maîtriser et rester à sa place. Il lui semblait que Varvara Pavlovna savait tout et la tournait sournoisement en ridicule. Heureusement, M. Gedelovski interpella Varvara Pavlovna et détourna ainsi l'attention générale. Lise se plia sur son ouvrage et se mit à observer Mme Lavretsky à la dérobée. « Et il a aimé cette femme !» se disait-elle. Elle s'efforça pourtant de chasser Théodore de sa pensée. Elle craignait de perdre l'empire qu'elle avait jusque-là conservé sur elle-même, et elle sentait sa tête s'égarer. Maria Dmitrievna parla musique. « J'ai entendu dire, ma chère nièce, que vous étiez une véritable artiste. » « Oh, il y a longtemps que je n'ai rien joué, » répondit Pavlovna en se mettant aussitôt au piano et en faisant courir ses doigts rapides sur les touches. « Ordonnez-vous ? Oh, je vous en prie. » Varvara Pavlovna joua en maître une étude brillante et difficile de Herz. Elle avait beaucoup de force et d'agilité. « Sylphide !» s'écria Gwenedelowski. « Admirable, extraordinaire !» ajouta Maria Dmitrievna. « Ah, je vous l'avoue, Varvara Pavlovna, » continua-t-elle en l'appelant pour la première fois par son nom, « vous m'étonnez, vous pourriez donner des concerts. Nous avons ici un musicien, un vieil allemand, un original, mais un homme fort instruit. Il donne des leçons à Lise. Mais celui-là deviendra fou en vous écoutant. » Ah, mademoiselle Lise est aussi musicienne ? Demanda Varvara Pavlovna en tournant légèrement la tête vers elle. Oui, elle ne joue pas mal et elle aime la musique. Mais qu'est-ce que cela en comparaison de votre talent ? Nous avons encore ici un jeune homme. Il faut que vous fassiez sa connaissance. C'est un artiste dans l'âme. Il compose même très joliment. Celui-là saura vous apprécier. Un jeune homme, un artiste, quelques pauvres musiciens sans doute. Oh mon Dieu, non! C'est un de nos premiers élégants, et non seulement dans notre ville, mais à Pétersbourg. Il est gentilhomme de la chambre, reçu dans la meilleure société. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Monsieur Panchine est ici en mission du gouvernement. Oh, c'est un ministre en herbe. Est-il artiste ? Artiste dans l'âme, vous dis-je, et si aimable. Vous le verrez, il vient chez nous souvent. Je l'ai engagé pour ce soir. Oh, j'espère qu'il viendra, ajouta-t-elle en appuyant sur la phrase, avec un léger soupir et un sourire plein d'amertume. Lise comprit le sens de ce sourire, mais elle était trop préoccupée d'autre chose pour y prêter grande attention. « Et il est jeune ?» dit Varvara Pavlovna en modulant légèrement. « Oh, 28 ans et d'un extérieur charmant, un jeune homme accompli. »« Oh, on peut dire un jeune homme modèle !» ajouta M. Gwedelovski. Varvara Pavlovna se mit à jouer tout à coup une valse bruyante de Strauss qui commençait par un tri si rapide que Gwedelovski en tressaillit. Au beau milieu de la valse, elle passa tout à coup un motif triste, mélancolique, et finit par l'air de la Lucia fra poco. Elle venait de comprendre que la musique gaie ne convenait pas à sa position. L'air de Lucia, dont elle accentuait vivement les notes mineures, toucha infiniment Maria Dmitrievna. « Quelle âme !» dit-elle tout bas à Gwedelovski. « Sylphide, Sylphide !» répéta celui-ci en levant les yeux au ciel. Vint l'heure du dîner. Marfa Timofieïevna descendit lorsque la soupe était déjà servie. Elle reçut Madame Lavretsky très sèchement, ne répondit qu'à demi-mot à ses amabilités et ne fit plus attention à elle. Varvara Pavlovna a compris bientôt qu'elle ne pourrait rien sur cette vieille, mais cessa de s'en occuper. Maria Dmitrievna, au contraire, redoubla de prévenance pour sa nièce. L'impolitesse de sa tante la contrariait. Du reste, Marfa Timofievna ne boudait pas seulement Varvara Pavlovna. Elle tenait aussi rigueur à Lise. Les yeux animés, elle restait roide comme une pierre, pâle, jaune, les lèvres serrées, et ne mangeait pas. Lise semblait calme. Tout sentiment l'avait abandonné. L'inertie du condamné était entrée dans son cœur. À dîner, Varvara Pavlovna parla peu. Elle semblait émue et ses traits respiraient une mélancolie modeste. Seul Gwedeolovski animait un peu la conversation par ses anecdotes, quoique de temps en temps il regarda d'un air craintif Maria Dmitrievna en toussant de cette toux embarrassée qui lui arrivait toujours lorsqu'en sa présence il se permettait un mensonge. Cette fois, elle le laissait dire. Après le dîner, on découvrit que Varvara Pavlovna aimait passionnément à jouer à la préférence. Oh, cela plut tellement à Maria Dmitrievna, elle en fut si touchée qu'elle se dit à part soi. Quel imbécile doit être ce Fiodor Ivanovitch pour n'avoir pas su apprécier une femme comme celle-là. Elle va donc s'asseoir à la table de jeu où était déjà placé Gwedilonovski. Et Marfa Timofievna emmena Lise chez elle en lui disant qu'elle n'avait pas figure humaine et qu'elle devait avoir bien mal à la tête. Oui, oh, elle a bien mal à la tête, dit Maria Dmitrievna en se tournant vers Madame Lavretsky et en roulant ses yeux. J'ai souvent aussi de horribles migraines qui... Vraiment, dit Varvara Pavlovna. Lise entra dans la chambre de sa tante et à bout de force, elle s'affaissa sur une chaise. Marfa Timofievna la contempla longtemps en silence. Puis elle s'agenouilla devant elle et se mit, toujours silencieusement, à lui baiser alternativement les deux mains. Lise s'inclina vers elle, rougit et fondit en larmes. Mais elle ne releva pas Marfa Timofievna. Elle ne retira pas ses mains. Elle sentait qu'elle n'avait pas le droit de les retirer, qu'elle n'avait pas le droit d'empêcher la pauvre vieille de lui exprimer son repentir, son affection, de lui demander pardon pour ses paroles de la veille. Et Marfa Timofievna ne pouvait se lasser de baiser ses petites mains si pâles et si faibles. Toutes deux pleuraient sans rien dire. Le chat matrosse ronflait dans un large fauteuil à côté d'un tricot interrompu. La flamme allongée de la lampe qui brûlait devant l'image vacillait à peine et, blottie derrière la porte de la chambre voisine, Nastasia Karpovna, tenant en main un mouchoir de cotonnade à carreaux roulé en pelote, s'essuyait les yeux à la dérobée.